c'est un deux. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Je trouve que pour chaque chose qu'on fait, il faut avoir la passion, il faut avoir l'émotion, il faut que cette chose vraiment vous fasse mal.
Émission passion au sens propre du terme, puisque selon Brassaï, qu'on vient d'entendre, la passion, ça fait mal. Avec nous, dans Continuons Musique ce soir, Brisa Rocher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre? La passion, ça fait mal, forcément?
Oui, en ce moment, plus que jamais.
Vous publiez votre sixième album Phaser, Brisa Rocher, un disque aussi puissant qu'il est intime, puisqu'il y est beaucoup question de votre père. On vous entendra chanter deux chansons ici dans les studios de France Culture. Et puis à vos côtés, Jacques Vassal, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne plume de rock and folk, auteur de plusieurs livres, notamment sur Brassens et Leonard Cohen. Vous signez un livre dont, en apparence, vous n'êtes pas l'auteur, puisqu'il est écrit Graham Allwright par lui-même, édité au Cherche Midi. C'est en fait un portrait très fouillé d'un chanteur dont on connaît les chansons sans toujours savoir qu'elles sont passées par lui. C'est peut-être le propre du folk de naître nulle part, comme disait Bob Dylan. Graham Allwright, le néo-zélandais devenu français, adopté depuis les années 50, comédien, apiculteur, professeur, il a exercé de nombreux métiers, il a beaucoup voyagé. On parlera de cette figure qui en fait réunit beaucoup de vos passions, puisque c'est lui qui a traduit Leonard Cohen en français et aussi Brassens in English, comme vous le racontez bien dans ce livre, Jacques Vassal. Mais on va commencer par Brisa Rocher et par un chiffre, le chiffre 48. 48, oh 48. 48, oh 48. I only saw a swinging gate, my hungry heart, an empty place.
Start fishing again. Cruising up Highway 395 from Los Angeles. I've been working all week down there where it's so bright. Working seems like forever. Now there's nothing but the road to show my way. Helped by the stars and the moon and my own headlights. I don't know how far I've come. It's so hard. But I'm heading a mile P95 right here on Highway P95.
Et la belle voix chaleureuse comme on l'entend ici, c'est celle de Jim Rocher. On a fait comme une sorte de boucle pour commencer, Brisa Rocher, puisqu'on a fait entendre 48, c'est le premier morceau de cet album, Father. Et puis ce qu'on entend là, c'est la dernière piste. C'est pas une chanson.
Non.
Trout Fishing Again, c'est la voix de votre père.
Oui.
Qu'est-ce qu'il raconte dans ce
texte ? Il lit son propre écriture et c'est un espèce de... Lui, il appelait ça des narragrams, comme un narratif. Je ne sais pas, le gramme, je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, c'était des courtes histoires comme des poèmes. Et on entend l'influence des Beat Generation dans sa voix, dans sa phrasée très rythmée aussi. Il raconte quelque chose qu'il a vécu bien avant qu'il a écrit, ou bien avant en tout cas qu'il... Oui, qu'il a écrit, parce qu'il y a une date sur son manuscrit. Et il raconte un départ en voiture de Los Angeles en allant vers la source de l'eau pour la ville et en allant vers une source, une vraie source d'eau au début des rivières qui devenaient des lacs, qui devenaient l'eau qui nourrissait toute Los Angeles. Et il dit qu'il cherche l'origine ou la source, mais il dit aussi qu'il va aller pêcher la truite qui est à la source. Mais on entend dans le poème que l'origine qu'il cherche, c'est peut-être la mort aussi, c'est peut-être la fin. En tout cas, il y a une espèce d'obsession et un aspect dark qui me fait penser que c'est un poème sur la mort.
Et cet enregistrement, il s'enregistrait seul, comment vous le retrouvez ?
En fait, il avait ce qu'il appelait un BFR, Big Fucking Radio. C'était un ghetto blaster et à pile. Et il l'avait tout le temps. Il enregistrait des choses sur cassette. Il enregistrait des gens, des conversations, lui-même. Et je ne sais pas où j'ai trouvé cette cassette, mais j'ai l'impression qu'il enregistrait dans une voiture garée. Parce qu'on entend les voitures qui passent. Donc, c'est ce que j'imagine visuellement, que lui soit assis dans une voiture avec son BFR et qui s'enregistre sur cassette comme ça avec les voitures qui passent.
48, c'est la chanson qu'on entendait. C'est l'âge qu'il avait quand il est mort. Et c'est 3 fois 16. 16, c'est 16 ans, l'âge que vous aviez quand il est disparu. À quel moment vous avez commencé à chanter et à écrire sur votre père ?
En fait, je n'ai jamais voulu écrire sur lui dans cette façon-là pour plusieurs raisons. Une, je suis un peu snob et je trouve ça un peu cliché, une femme qui écrit sur son père. Je trouve aussi que c'est un peu confessionnel dans un sens que...
C'est pas cette dimension quand on écoute l'album. Hein.
J'espère, mais en tout cas, j'aurais pas imaginé un projet intellectuellement comme ça pour l'exécuter. Donc, c'était... J'ai boulimiquement écrit 8 morceaux sur lui il y a peut-être un an et demi. Suite à... J'étais en tournée pour l'album précédent, j'étais dans le camion et je parlais avec mon guitariste et il m'a fait parler de mon père et j'ai parlé longuement. Et au retour à Paris, quelques jours après, on m'a invité voir Lucinda Williams, qui jouait avec qu'un guitariste. Je ne connaissais pas les morceaux qu'elle a joués ce soir-là, mais j'ai pleuré tout le long du concert. Et à la fin, j'ai acheté son vinyle, qui est un double vinyle bleu. Et je ne l'ai pas écouté. Mais 2 semaines plus tard, je n'arrivais pas à dormir du tout. Et j'étais en déménagement, donc j'étais chez des gens où il y avait plein de gens endormis partout. Et j'ai dû me lever, me mettre à 4 pattes avec une lampe torche dans la bouche pour écrire ces 8 morceaux dans 2 semaines par terre, sans pouvoir mettre des mélodies avec la guitare, parce que c'était la nuit et tout le monde dormait, mais d'une façon boulimique, oui. Et en espérant pouvoir dormir après. Et une fois que les 8 morceaux étaient faits, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pur et quelque chose de très instinctif, quelque chose qui me rappelait mes morceaux d'adolescence. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce projet et j'ai décidé d'en faire un album.
Jacques Vassal, on parlera tout à l'heure de Graham Allwright, mais oui, cette façon d'être surtout pas autobiographique, mais forcément on met de soi quand on écrit dans les chansons, c'est quelque chose que vous retrouvez chez lui, sachant que le répertoire de Graham Allwright, ce sont aussi des adaptations, des reprises. Et parfois, il y a des chansons de lui, on n'arrive même pas à croire qu'elles sont de lui, tellement elles ont l'air d'être anciennes, portées par autre chose.
Oui, c'est vrai. D'autant plus que, par exemple, au sujet de Leonard Cohen, qui est peut-être un des auteurs de chansons les plus célèbres qu'il a adaptées en français, eh bien, il m'a dit, Graham Allwright, que la première fois qu'il avait entendu des chansons de Leonard Cohen sur disque, c'était les 2 premiers albums, hein, The Songs of Leonard Cohen, et puis ensuite Songs from a Room, dans lequel il y avait Suzanne pour le premier album, notamment, et Master Song, Stranger Song, qu'il a adapté en français, L'étranger. Eh bien, il dit, j'avais l'impression que ça a eu une résonance tellement forte et tellement profonde en moi que c'est comme si je les avais écrites moi-même. Il avait l'impression d'endosser le vécu qu'il y avait derrière l'écriture de ces chansons-là. Et plus tard, il a rencontré Leonard Cohen et plusieurs fois, ils en ont pas mal parlé ensemble d'ailleurs, et Leonard Cohen a dit, c'est très joli, qu'en ayant entendu les adaptations de ses chansons en français par Graham Allwright, il avait l'impression que Graham Allwright avait rendu, dit-il, mes propres chansons plus acceptables à mes yeux.
Justement, il est parfois plus facile d'être émotionnel dans un morceau qu'on n'a pas écrit, puisqu'il y a une petite voile qui fait qu'on n'est pas complètement à nu sur tous les niveaux. Et du coup, on peut se dénuder soi-même encore plus.
Brisa Rocher, je vous propose d'endosser les voiles. Enfin, on verra les voiles que vous gardez ou non, puisque ce sont vos chansons que vous allez interpréter dans un instant. Vous êtes accompagné de Jeff Hallam à la basse. Alors, certains auditeurs l'ont peut-être déjà entendu. Jeff Hallam a vu ou entendu en solo ou avec d'autres artistes,
puisqu'il accompagne. Il a un projet My Friend Jeff.
Voilà, puis il accompagne régulièrement Dominica depuis de longues années. On va vous écouter. Je vous laisse vous installer. Brisa Rocher, 48, cette fois-ci. La chanson sera in extenso. Et Fuck My Love, vous nous traduirez les paroles après.
Merci.
I got to you when I had turned 16. Your blood was running dirty. I guess you could have thought I was a dream. never had to think of ways to prove my love. All the dangerous tests that came fit me like a glove. 48, oh, 48. 48, oh, 48. I only saw a swinging gate, my hungry heart, an empty plate. In our basement rooms, we made standing naked in the kitchen by the stove, swaying gently on your long legs, a tree far from the grove. 48, oh, 48. 48, oh, 48. I only saw a swinging. Was your 48. My strongest love wasn't strong enough compared to fate. Over by Green Lake from another basement room, I shot out on my 2 feet. I was a rocket to the if I ran till dawn. I could run straight to Portland, but I'd still feel you gone. 48, oh, 48. 48, oh, 48. 48, 48, 48.
Toss right down
roads into my sweet caress could kill us too. It stains the boys with its tattoo. But now you are the one for me. So fuck my love and all its ways and toss right down the key.
Brisa Rocher, accompagnée de Jeff Alam dans les studios de France Culture. Le prochain concert avant une tournée, ce sera le 3 octobre au Café de la Danse. C'est à Paris. Et puis, Brisa Rocher, vous participerez bientôt à un concert hommage à Joseph Léon. Ce sera à la Boule Noire à Paris le 20 juin. Votre album, Brisa Rocher, Father, est édité sous le label Black Ash. D'ailleurs, c'est un disque, j'aimerais parler de la pochette, où vous apparaissez en couverture une très belle photo, noir et blanc, signée Jean-Baptiste Mondino. Alors Mondino, pour ceux qui peut-être n'ont pas ça à l'esprit, il a fait beaucoup de photos de mode, mais aussi pour la musique, certaines qui font référence, notamment le premier disque de Björk. Il a travaillé avec Madonna, Étienne Dao. Avec
Prince aussi, il a fait des couves de Prince.
Avec énormément de musiciens. Et sur ce disque, vous, Brisa Rocher, vous apparaissez... avec une chevelure magnifique déployée, en sous-vêtements, les bras levés, les mains dans le dos. Et puis, je vous laisse la décrire, cette photo. Et pourquoi vous l'avez choisie pour illustrer Fader?
En fait, il faut dire qu'on a longuement correspondu en rapport avec cette pochette et cette séance. Il a même écouté des maquettes d'origine que j'avais fait à la guitare avant. Et c'est lui qui m'avait dit qu'il fallait qu'il fasse la couve de cet album. Et... donc on a échangé sur ça, on a échangé sur l'aspect masculin, féminin, parce que c'est un album sur mon père, mais dans les histoires que j'ai décrites, qui étaient des histoires, des moments difficiles parfois pour un enfant, dans le monde de la drogue notamment.
Et parce que votre père, en fait, vous le racontez dans une chanson, quelqu'un lui a fait découvrir la cocaïne et il va se mettre à en vendre, c'est ce qui sera son occupation principale.
Oui, pendant longtemps, oui. Et donc j'ai vécu plein de scènes dans ce milieu et à la fin de la production de l'album, je me suis rendu compte que j'avais, dans la production, à travers la production de cet album, j'avais voulu absorber ou prendre des gris-gris, des mojos, des symboles de pouvoir de tous les acteurs dans l'histoire, les vendeurs, les acheteurs, les femmes, les hommes, les adultes, les enfants, moi-même, et qu'il y avait une espèce de glamour et de puissance dans les vilains, dans les méchants, que je prenais, que j'appropriais. Et donc, avec Mondino, on a longuement échangé sur cet aspect-là. Et du coup, j'ai ramené plein de vêtements masculins au dernier moment au shooting. Et on est allé dans une pièce et j'ai montré 30 photos de mon père et son entourage qui étaient des photos qui se passaient dans les morceaux, dans la période des morceaux de l'album. On a regardé tout ça et j'ai fait des essayages avec Mondino pour imaginer le shooting et qu'est-ce qui correspondait le mieux à ce qu'on voulait dégager. Et pendant les changements, il a vu que je ne me rase pas les aisselles. Et je ne me rase jamais les aisselles. Dans une sorte de rébellion contre les standards de beauté que la mode nous impose, mais surtout parce que c'est un lien à mon éducation. Je viens d'un village très très artiste, très à gauche, très féministe, et garder ce symbole qui est privé, parce que d'habitude ça se voit pas, à part à la plage, garder ça pour moi, ça me renforce un lien avec mon éducation, mes idées de beauté, mes idées de moi-même. Et du coup, il m'a vu me changer, il a vu mes aisselles, et il se trouve qu'il a été frappé par ça. Et donc, dans le shooting en bas, on a fait plein de tenues qu'on voit. On voit d'autres photos aussi dans la pochette. Et au bout d'un moment, il m'a demandé juste de lever mes bras une fois. Et on a pris une photo. Et c'est cette photo qui est la couve.
Je voudrais parler des textes, Brisa Rocher, puisqu'on vient d'entendre un texte assez cru, Fuck My Love. Mais il y a des images assez puissantes dans le disque. Je pense à Holy Badness, hein, Sainte Méchanceté, une chanson très forte, mais qui est dite d'une voix très, très douce, où vous dites notamment, quand il s'agit des hommes, les fils du bien et du mal sont fermement liés. Bon, je traduis, grosso modo, comme ça. Le Fuck My Love, par exemple, de quoi est-ce qu'il est question dans la deuxième chanson qu'on vient d'entendre?
Alors, en fait, il y a deux groupes de chansons dans cet album. Il y a des morceaux très explicitement sur des moments que j'ai vécu avec mon père, et puis il y a des morceaux que j'ai écrits dans le nord de la Californie, là d'où je viens, où c'est une ambiance visuelle très David Lynch, très brumeux, très à gauche, mais aussi le Wild West.
Tout le monde disait les accords bizarres de Johnny. Mais comment ça, les accords bizarres? Ces accords décrivaient des émotions. Ces accords, je les obtenais en ajustant les chevilles de ma guitare, jusqu'à ce que j'entende les accords que j'avais en moi, ceux qui me convenaient. Ce sont mes émotions. Je les appelais les accords du questionnement. Ils contiennent en fait un point d'interrogation. Ils me convenaient car il y avait en moi tant de choses irrésolues. Je vivais dans un perpétuel état d'indécision émotionnelle.
On entendait la voix de Johnny Mitchell. Vous êtes d'accord avec cette idée des accords du questionnement chez Johnny Mitchell, Brisa Rocher? C'est quelque chose que vous recherchez aussi?
Je me crois beaucoup moins technique que Johnny Mitchell. Du coup, à la guitare, oui, c'est une questionnement de est-ce que ça peut être une accord? Est-ce que je peux jouer comme ça? Mais c'est une recherche plutôt ouverte. Elle, je pense que c'était... Il y avait plus de vision dans la composition que moi, je peux avoir. Moi, je suis plus instinctif, mais... Elle était ma première influence en tant que singer-songwriter, c'est sûr.
En quoi elle était importante pour vous, Johnny Mitchell? D'ailleurs, vous commencez par quel album? En fait, peut-être en concert, je ne sais pas.
Du coup, ma mère l'écoutait. Et ma mère l'écoutait les premiers albums. Donc, c'était Ladies of the Canyon.
Blue.
Et, Blue, mais... Blue, en fait, ma mère jouait moins. Du coup, moi, j'ai découvert quand on était ados. On commençait entre ados copines à écouter. Et là, on est devenu obsédé par Blue. Et à ce moment-là, en fait, dans l'adolescence... On s'est rendu compte que ces albums étaient chronologiques. Elles parlent tellement de la vie d'une femme et de l'évolution du romantisme et de déception et de volonté de travailler, de recherche d'indépendance. Et c'est bien tombé. Moi, j'étais émancipée à 16 ans et je faisais déjà la musique. Je suis allée être avec mon père à 16 ans. Il est mort quand je suis arrivée. Je ne suis pas rentrée à la montagne en Californie. Et du coup, je jouais de la musique dans le marché, dans la rue, à Seattle. Et j'écoutais Johnny Mitchell. Et deux ans plus tard, quand je suis allée en Europe la première fois, je me souviens d'écouter peut-être Hegira à ce moment-là, parce que Hegira, c'est un voyage, un album sur le voyage. Ces albums, pour une femme, pour une jeune femme, si tu les écoutes en ordre, tu peux suivre et vivre les mêmes questionnements au même temps qu'elle. Et en plus, en tant que chanteuse et compositrice, c'est très, très, très pertinent pour moi.
I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil. And I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me. You said love is touching souls. Surely you touch my anchor. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood
Mais vous chantiez presque toutes les parties, Brisa Rocher.
Je connais tous ces albums-là, en tout cas, je connais toutes les paroles, toutes les mélodies, c'est sûr.
Jacques Vassar.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître un petit peu personnellement Joni Mitchell, qui non seulement est une grande artiste, mais qui est une femme à la fois très intelligente et très sympathique. Elle est aussi peintre. Et j'avais écrit
ça
une
vous
fois
fait un
dans...
point commun encore, ça.
Oui, j'avais écrit une fois dans Rock & Folk un long article sur toute son œuvre, disque par disque. Et son manager et directeur artistique, qui s'appelait Henry Louis, qui était un homme charmant à Los Angeles, était en voyage et il m'a écrit, il était en voyage en Europe, il est tombé sur cette revue quand il était au festival de Montreux cet été-là, en Suisse. Et il m'a dit, bien que je ne comprenne pas le français, j'ai cru comprendre que c'était un travail sérieux. Alors je l'ai fait traduire une fois rentré chez moi. Je l'ai lu à Joni Mitchell en traduction et elle a trouvé ça super et elle voulait vous dire combien elle était contente. Ouais. Et un an plus tard, j'étais de passage à Los Angeles pour plusieurs choses et j'ai rencontré Joni Mitchell et on a discuté de musique, bien sûr, mais pas seulement, de la vie en général. Ce que je voulais dire par rapport à vous, c'est que elle aussi est une chanteuse qui était cataloguée, on va dire, plutôt folk song au début, avec une guitare sèche, des mélodies, un peu blues aussi, et puis finalement une chanteuse de jazz. Et petit à petit, surtout quand elle a fait le disque sur Mingus, le disque d'hommage à Charlie Mingus en 1979, le côté jazz de la chanteuse est beaucoup plus ressorti que précédemment. Ça fait un autre point commun avec vous et avec Graham Wright, lui aussi, qui a fait un disque avec Glenn Ferris en l'an 2000.
Dans le verre de ses yeux, il y avait d'autres terres. Dans l'immense clairière, des châteaux fabuleux. Et rien n'était chimère dans le verre de ses yeux.
Quand je cherche dans d'autres affinités entre nos deux pays, du fond propre de la création. Je me demande si ça n'est pas dans la langue. Je ne manie pas votre langue, mais j'ai l'impression que votre langue vous aide à résoudre un peu les mêmes problèmes que pour le poète, la langue française, en sens que vous avez une langue que l'on dit pauvre, ce qui est une façon d'être très riche. Comme la langue française. La langue française est pauvre en vocabulaire, très pauvre, comparé par exemple aux langues anglo-saxonnes. Si vous prenez un dictionnaire français-anglais, un dictionnaire anglais-français, l'un est deux fois plus gros que l'autre. Parce que les langues, comme la langue anglaise, ont un vocabulaire tellement riche, concret, plastique, qu'il faut presque un mot pour chaque chose, et le mot cherche à être la chose elle-même.
On avait beaucoup parlé du prix Nobel de littérature remis à Bob Dylan, mais j'ai voulu vous faire entendre l'écrivain et poète St. John Peirce, à qui on avait remis le prix Nobel à Stockholm en 1960. Il parlait de la pauvreté du français comparée à celle de l'anglais. Alors Brisa Rocher, on en a profité pour vous passer une chanson que vous chantez en français, mais vous ne chantez qu'en anglais sinon.
De temps en temps, je chante en français, mais c'est vrai qu'une langue maternelle... à quelque chose de plus émotivement et émotionnellement, je pense que notre langue. Mais là, je pense à justement un de mes livres préférés, qui est Sea Marks de St. John Peirce. Mais je me demande, j'ai l'impression que je l'ai lu en anglais. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il a écrit en français et ça a été traduit?
Ah, je pense, oui.
Sans doute. Et je pense pas que je l'ai lu en français. Du coup, maintenant, je suis très curieuse.
Vous allez pouvoir le découvrir une deuxième fois. Vous entendez, Jacques Vassal, cette remarque de St. John Peirce qui dit que finalement, l'anglais est peut-être plus riche, concret et plastique.
Oui, j'entends cette remarque. Je ne connaissais pas cette intervention de sa part. Évidemment, ça mérite beaucoup d'attention. Ce que je peux dire, c'est que moi, je me souviens quand j'ai appris l'anglais à partir de la sixième au lycée, hein, tout simplement, dans mes études secondaires et plus tard en fac, les profs d'anglais successifs que j'ai eus nous disaient souvent que, en gros, il y avait 30 000 mots usuels répertoriés ou répertoriables dans la langue française pour 70 000 mots, toujours en gros, pour la langue anglaise. Alors évidemment, quand on vous dit ce genre de chiffres, de statistiques qui sont plausibles, vous avez tendance à vous dire, oui, ben, on a moins de richesse. Par exemple, pour dire l'ombre, en anglais, on a deux mots. Shadow, c'est l'ombre portée, et shade, c'est l'ombre par opposition à être au soleil, quand vous êtes à l'ombre derrière un arbre, par exemple. Bon, et il y a beaucoup d'exemples qui sont comme ça. Malgré tout, plus j'ai appris l'anglais et aussi le russe, c'était ma deuxième langue d'étude, et aussi une passion parce que c'est une langue magnifique. Plus j'ai appris les deux langues étrangères, disons, et écouté un petit peu d'autres, comme l'espagnol, l'italien, etc., qui ont évidemment leur beauté, plus j'aime la langue française parce qu'elle nous donne confiance en nous-mêmes. Et il faut avoir confiance dans notre langue. Quelle que soit notre langue, d'ailleurs, notre pays d'origine, il faut avoir confiance dans notre langue. Mais en même temps, bien sûr, il faut essayer de dialoguer avec celle des autres.
France Culture,
Continent Musique,
Mathieu Conquet.
Alors, puisque vous êtes venu ici à la Maison de la Radio, on a sorti quelques-uns des disques qu'on a dans notre discothèque. Vous savez, on a un fond qui est très riche. Oui. Brisa Rocher, mais aussi pour vous, Jacques Vassal, on a sorti plusieurs vinyles. Alors, on avait pensé évidemment à Kate Bush, puisqu'on sait que c'est une chanteuse que vous aimez bien. Mais on s'est dit, tiens, avec Antoine Vuillose, on va essayer de peut-être lui faire écouter des chanteuses qu'elle ne connaît pas encore. Alors, on avait pensé à Annette Peacock, que vous ne connaissiez pas, mais vous êtes arrêté sur un autre disque.
Oui.
Et là, c'est vraiment le hasard. Et pourquoi celui-ci ?
En fait, déjà...
Ah, Sarah Hogan Gunning.
Moi, je ne connais pas, mais j'adore l'idée « Songs from the Kentucky Coalfields ». Donc, c'est forcément des American folk songs ouvriers.
Ah, complètement.
Ou même encore plus bas que ouvriers.
Chant des mines du charbon.
Bah oui, oui, c'est ça. Et c'est curieux, mais quand j'écrivais cet album « Father », j'ai eu un appel du Centre Pompidou un jour. Et au début, quand j'avais fait les maquettes, et ils ont dit « On pensait à toi, Brisa. Est-ce que tu n'as pas un projet folk americana ? Parce qu'on fait une expo Walker Evans et on aimerait bien que tu l'ouvres avec un projet comme ça. » Alors, comment est-ce qu'ils savaient que j'avais ça ? Ils ne savaient pas. C'était un pur hasard. Mais du coup... J'ai chanté pour l'ouverture de l'expo Walker Evans et ils m'ont demandé de présenter une présentation de mon travail en rapport avec Walker Evans. Et du coup, je me suis branchée à travers ce projet aux racines américaines, racines de danger, de pauvreté, de grâce dans ça. Et du coup, cet album m'a fait rappeler ça.
Alors, vous la connaissez, cette Sarah Hogan Gunning, Jacques Vassal?
Je ne la connais pas personnellement, oui, d'autant plus qu'elle est décédée il y a déjà quelques années. Mais c'était une chanteuse de cette tradition ouvrière des mines du Kentucky qui ont beaucoup compté dans les années 30 et 40 et qui d'ailleurs font partie des sources d'inspiration de certains chanteurs folk plus modernes, dont Pete Seeger, Woody Guthrie, Cisco Houston aussi, qui ont souvent chanté sur les mines. C'était des conditions de vie très dures qui sont décrites et il y avait parfois des accidents graves, des coups de grisou avec des morts, etc. Et donc les chansons nous aident à nous souvenir de toute cette époque-là. Et il faut absolument se souvenir aussi, et les chansons nous y aident, sur quel terreau un pays comme les États-Unis s'est construit. Parce qu'on est souvent en admiration devant les réalisations, le modernisme, etc. des Américains. En fait, c'est un pays quand même extrêmement dur, extrêmement violent. Et la richesse et la prospérité de ce pays, et son rayonnement dans le monde aussi, se sont faits au prix de beaucoup de souffrances, de beaucoup de vies humaines perdues, de beaucoup de blessés, de beaucoup de misère, sans parler de l'esclavage, bien sûr, des Noirs, mais même les petits paysans blancs et les petits mineurs blancs qui venaient souvent
d'Europe.
D'Europe, bien sûr, mais je veux dire, entre autres, d'Irlande, d'Italie et d'autres pays d'Europe où ils étaient dans les sous-couches de la population, qui n'avaient pas de boulot. Ils étaient partis à l'autre bout du monde à l'époque, presque. Traverser l'Atlantique en bateau, c'était énorme, pour espérer travailler, pouvoir gagner leur vie dans des meilleures conditions. Et ce sont eux qui ont fait la richesse des États-Unis. Et il faut jamais les oublier. Et donc, les chansons nous y aident.
Je vous propose qu'on écoute... vous savez, j'ai trouvé une chanson, mais qui peut-être va avoir une résonance. Brisa Rocher, une chanson que Sarah Hogan Gunning tenait dans sa famille, la famille Garland. « I have letters from my father.
I have letters from my father in my hand, written by my elder brother. o'er the sea and were forward unto me. I'm as happy as I can be in this land, in this land. I'm as happy as I can be in this land. Father told me in his letters that are grand, that are grand, I couldn't make myself much better in this land, in this land. Then I cried, what shall I do? For I had not read them through. And they made me all anew in this land, in this land. And they made me all anew in this land. I am sanctified and happy in my heart.
Wow. Il faut absolument que j'ai une copie de cet album. Hein. Si je suis très très gentille...
Je ne peux pas vous donner l'original, mais la copie, on devrait pouvoir s'arranger. Sarah Hogan Gunning, A Girl of Constant Sorrow. C'était un enregistrement de 65 chez Folk Legacy. On n'a pas eu le temps de parler de votre travail de peintre, Brisa Rocher. Mmh. Quel genre de peinture vous faites? J'y pensais parce que la couverture ici, c'est un dessin.
Ah oui, oui, oui. Bah, je peux parfois faire des dessins, ça dépend de combien d'espace j'ai. Là, en ce moment, à Paris, je n'ai pas beaucoup d'espace, mais juste avant de revenir en France, parce que j'ai passé 2 ans en Californie récemment, là j'avais un grand studio et là j'avais imaginé, j'ai exécuté une série de grands formats avec beaucoup plus de vide qu'avant, parce qu'avant, c'est plus Lucian Freud, des portraits un peu brutaux, mais avec beaucoup de pinceaux,
matière, beaucoup de chair.
Matière, oui. Et là, j'ai fait une série encore de portraits, mais plutôt sur des nus et avec un aspect sexuel, en fait, où on voyait des sexes, des femmes et des hommes. Mais avec beaucoup, beaucoup de blanc, beaucoup d'air, beaucoup de... En fait, c'était pas de l'aquarelle, mais il y avait des aspects qui auraient pu être de l'aquarelle, beaucoup d'espace et de blanc.
Et loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à 20e, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Du vent encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison en chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti.
Il faut que je m'en aille. S'il devait rester qu'une chanson de Graham Allwright, peut-être ce serait celle-ci. En tout cas, tout y est pour commencer par parler de lui, puisque cette idée de vouloir partir, une sonorité très, très folk, un texte en français, et puis ce goût d'Amérique. À quel point est-ce qu'elle est biographique et synthétique de l'œuvre de Graham Allwright, Jacques Hassan ?
Elle est en partie autobiographique, effectivement, cette chanson. Elle est emblématique de son œuvre, et certains disent que s'il fallait n'en retenir retenir qu'une, entre guillemets, ou n'en découvrir qu'une pour ceux qui ne connaissent pas encore, les plus jeunes, ça pourrait être celle-là. Il est parti en 1948, hein, il était né en 1926, donc à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et puis, très jeune, il a appris à chanter avec ses parents. Ils avaient un petit groupe familial, ils chantaient dans les hôpitaux et autres occasions caritatives. Et puis, avec son frère. Et son frère a été tué à la guerre. Il a été abattu, il était aviateur. Il a été abattu dans la bataille d'Italie en 1944. Donc, ça a été un déchirement, bien sûr, pour toute la famille. Et puis, entre-temps, Graham apprenait à faire du théâtre pour devenir comédien. Et puis, il a eu une bourse qui lui a permis d'aller étudier le théâtre à Londres, à l'Old Vic School, qui était très connu, où il y avait des gens, des pointures, comme Alec Guinness, par exemple, qui était parmi les enseignants.
Il a même refusé d'aller au Royal Shakespeare Theatre.
Oui, et pendant cette période-là, on lui a proposé le Royal Shakespeare, parce que apparemment, il avait le niveau, au bout de 2 ans d'études à Londres, pour faire ça. Mais il venait de connaître Catherine d'Asté, une jeune française, qui était la fille de Jean d'Asté, directeur de la Comédie de Saint-Étienne et apôtre de la décentralisation théâtrale en France. Et comme c'est devenu une histoire d'amour entre eux, eh bien, il est venu avec elle en France au lieu de repartir pour la Nouvelle-Zélande. Là, il a fait du théâtre pendant plusieurs années et c'est en 65 qu'il a fait son premier disque de chansons chez Mouloudji, qui était aussi producteur, présenté à Mouloudji par Colette Magny, qui appréciait beaucoup Graham Allwright. Et ensuite, en 66, il a signé un contrat avec le groupe Philips, qui s'appelait pas encore Phonogram, ni Polygram, ni Universal, comme c'est devenu depuis. Et le label Mercury, qui en faisait partie, a lui fait enregistrer son deuxième 33 tours, mais qui vraiment le premier qui l'a fait connaître, qui contenait cette chanson-là. Et dans cette chanson-là, il parle entre autres de son mariage. Il dit « Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. » C'est tout à fait vrai. Il s'est marié dans le petit village de Pernan-Vergelès, dans le sud de la Bourgogne.
Les amateurs de Bourgogne le connaissent.
Connu, bien sûr, pour ses vins. Et le maire disait « Graham Allwright ». Il était perdu parce que très peu de gens parlaient anglais en France à l'époque et surtout pas dans nos campagnes bourguignonnes.
Mais quand vous êtes arrivé dans le studio tout à l'heure, Brisa Rocher, vous êtes tout de suite demandé « Mais Graham, c'est curieux comme prénom oui. ». Surtout oui. écrit comme ça. Hein.
Non, oui. j'ai jamais vu ça.
Ben alors, je peux vous dire que moi non plus, avant lui, j'avais pas vu. Si j'avais vu, parce que je m'intéresse aussi à la course automobile, il y avait un coureur néo-zélandais qui s'appelait Graham Lawrence. Et alors, effectivement, ça s'écrit G-R-A-E-M-E. Et non pas G-R-A-H-A-M, comme par exemple Graham Greene, voilà. L'écrivain anglais.
Ou G-R-A-M comme Graham Parsons, par exemple.
Ou G-R-A-M comme Graham Parsons. Bon, et alors, effectivement, c'est l'orthographe répandue là-bas en Nouvelle-Zélande. Et donc, si on essaye de prononcer correctement, nous, Français, c'est pas toujours facile, on doit essayer de ne pas dire Graham, ni Graham, puisqu'il n'y a pas d'H, mais Graham. Voilà, c'est
comme
son
Graham.
Vrai nom. Absolument, Graham. Absolument.
Graham.
Oui. Brisa Rocher, votre nom complet, c'est Brisa Day Rocher?
Non, c'est la Brisa Day Rocher.
Encore
plus fort. Et aussi Valentine?
Valentine, c'était mon nom de scène dans le jazz à Arcata avant de venir en France il y a tellement d'années.
Pourquoi Valentine?
En fait, il y avait, c'était à l'origine, c'était Valentine and the Riders et les gens sur cheval parce que c'était un groupe de bandits qui cambriolaient, ou je sais pas comment dire, mais dans le Wild West, des stagecoaches, il y avait des robbers,
des voleurs,
groupes de bandits,
des
plus ou moins célèbres, et il y avait un groupe où c'était beaucoup de gens, des blacks, des américains natifs, des blancs, tout mélangé, et c'était exceptionnel qu'ils se mettent ensemble, et c'était une bande, et le leader s'appelait Valentine, et c'était Valentine and the Riders, et j'avais lu quelque chose avec ça, et ça m'a touchée, j'ai trouvé ça romantique, et puis il y avait cet aspect fédérateur aussi, et américain. Et donc, à l'origine, c'était un groupe qui s'appelait, mon groupe s'appelait Valentine and the Riders. Mais tout de suite, tout le monde a pensé que je voulais m'appeler Valentine. Et du coup, c'est devenu ça.
Et aussi, on peut rappeler qu'il y a un excellent album de Tom Waits, un chanteur que j'imagine vous devez bien aimer aussi, qui s'intitule Blue Valentine.
Oui.
Alors, on en revient à Graham Allwright.
Voilà, parfait.
Qui donc fait ses études de théâtre à Londres, rencontre Catherine d'Asté, vous l'avez dit, comédienne issue d'une famille de théâtre, parce que c'est la petite fille de Jacques Copeau, le fondateur du Vieux Colombier. Quelle va être l'importance de cette histoire des tréteaux, du théâtre itinérant, dans la formation du chanteur Graham Allwright?
Alors, moi, je crois que ça va, entre autres choses, lui donner un sens de la présence sur scène, qu'il aura très fort par la suite quand il sera chanteur de concert, parce que il faut avoir une certaine maîtrise de son corps, de ses gestes et même de son regard. Chaque détail compte, les mains, parce que vous êtes exposé en scène, tout le monde vous voit, et donc aussi bien votre moindre qualité que votre moindre défaut vont être repérés. La deuxième chose aussi, c'est que à force d'entendre des pièces de théâtre en français, il a commencé, ça l'a aidé aussi à progresser dans l'apprentissage de la langue française. Dans sa jeunesse, il avait fait du français à l'école, mais pas à un niveau très poussé. Donc, après, il est passé par Londres. Donc, on peut dire que quand en 1951, il est arrivé en France, il ne parlait presque pas le français et il a appris sur le tas. Et il m'a raconté, entre autres, c'est relaté un moment dans le livre, que les paysans bourguignons, viticulteurs justement du côté de Pernant-Vergelès, lui ont appris aussi quelque chose de l'accent, rouler les airs et ainsi de suite, et employer certains jurons qu'on ne trouverait pas dans des livres de littérature française, entre guillemets, plus châtiés. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'il a connu une famille de gens qui étaient des ouvriers parigots, à l'époque, si j'ose dire, exilés ou réinstallés, comme vous voudrez, en Bourgogne, et qu'ils l'ont hébergé. Il avait, je crois, une sorte de chambre d'hôte payant chez ces gens-là pendant un an ou deux. Et ces gens-là connaissaient un tas de mots d'argot. Alors, d'argot parigot, pas du tout bourguignon, cette fois-ci. C'est comme ça qu'il a connu. Et puis, alors, en écoutant les chansons de Charles Trenet, de Georges Brassens, de Léo Ferré, de Jacques Brel, de Félix Leclerc, etc. Tout ça, ça a constitué une petite culture de la langue française. Et puis, alors, l'autre chose qui lui a servi dans l'apprentissage du théâtre, c'est qu'il a été machiniste également. Donc, il aidait à l'installation et à la désinstallation des décors en tournée avec la Comédie de Saint-Étienne de son beau-père.
Et quand on connaît la régie, les lumières,
voilà. Et donc, tout ça, ça a aidé à lui apprendre aussi le métier de scène qui a servi pour la chanson plus tard.
Bien sûr, je crois qu'il faut toujours chanter contre les injustices qu'il peut avoir dans le monde si on éprouve ce besoin, le besoin de le faire. Mais quelquefois, ça peut être la démagogie aussi, on peut tomber... Et les choses ne sont pas si claires, toujours, c'est pas noir et blanc. Et dans une chanson de 3 minutes, d'avoir cette subtilité de penser, on ne peut pas toujours y arriver. Peut-être on trouve chez des artistes qui ont vécu des choses profondément, que ce soit en Afrique du Sud ou bien aux États-Unis comme Tracy Chapman ou bien la nouvelle fille Shocked, etc., qui ont un background qui fait que leur chanson est nourrie de ça. C'est vrai, c'est vraiment leur vécu. Et ça, c'est vrai. C'est peut-être la chanson contestataire, mais c'est vrai. C'est pas des idées abstraites comme ça d'un artiste qui voudrait changer le monde, mais qui est dans son coin.
Et il n'a pas besoin de finir sa phrase, Graham Allwright. C'était en 88 sur France Culture, dans La Mémoire en chantant. Comment vous comprenez ce qu'il pointe là? Il y a des imposteurs de la contestation, Jacques Vassam?
Non, c'est peut-être pas exactement ça qu'il a voulu dire, encore que la démagogie et le manque de sincérité soient toujours possibles dans ce domaine comme dans d'autres. Nous ne sommes pas dupes, vous et moi. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que lorsque l'on commence à se colter avec une certaine réalité sociale, politique, pure et dure, comment dire, ça rend humble. Et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui souffre ou qui a souffert directement de ces injustices ou bien de l'exploitation, par exemple, des ouvriers, que ce soit de la mine ou des ouvriers agricoles ou des esclaves d'autrefois, vous vous sentez quand même en empathie avec ces choses-là. Et on n'a pas le droit de plaisanter avec la misère du monde, je dirais, même s'il arrive parfois, d'ailleurs, que l'on puisse faire des chansons satiriques et humoristiques et des chansons drôles sur des sujets qui ne le sont pas du tout. Mais quand même, c'est du sérieux. Donc, c'est pas s'acheter une bonne conscience en disant « je vais faire une chanson contre la guerre, je vais en faire une autre contre le racisme ». Bien sûr, j'allais dire que c'est à la portée de tout le monde. Bon,
Qu'il était lui-même très pacifiste,
oui,
politiquement engagé, il va beaucoup s'investir dans le Larzac,
militant antinucléaire aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Mais chez lui, c'est vraiment une démarche sincère et qui va plus loin. Parce qu'à un moment donné, quand la célébrité est devenue trop pesante pour lui...
Il y a un rapport, c'est étonnant à vous lire, il y a un rapport panique à la célébrité chez lui.
Il y a presque ça. La célébrité est devenue trop pesante pour lui à partir de 1968-69, après son deuxième album, le premier chez Mercury, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, et aussi le suivant qui s'est appelé Le Jour de Clarté, dans lequel, entre autres, il adapte une très belle chanson du groupe Peter, Paul and Mary, dont le texte était écrit par Peter Yarrow. C'était The Very Last Day. Au départ, c'est surtout une chanson à thème religieux, un gospel qui explique que les hommes sont tous les mêmes, enfin, devant le destin, devant la mort, ou devant Dieu, même, peut-être. Et lui, il dit, les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil, il faut apprendre l'égalité, il faut donner, c'est plus que donner sa chance à chacun, c'est respecter tout le monde, le plus humble, et la plus humble vie est tout aussi précieuse que celle de je ne sais quelle célébrité. Donc, c'est une chanson absolument sur l'égalité et sur la fraternité, voilà. Et donc, lui, il plaisante pas avec ça. Et ensuite, je voulais dire que quand la célébrité lui a trop pesé, il a coupé les ponts, entre guillemets, pendant un moment, avec la France et avec le métier du show business. Il est parti en voyage avec un copain à lui. Il est parti en deux chevaux Citroën depuis Paris jusqu'à Marseille. Et puis à Marseille, ils ont embarqué la deux chevaux sur le bateau. Et ils se sont retrouvés un peu plus tard en Égypte et en Éthiopie, et en passant par le Harar, la province où Arthur Rimbaud avait terminé sa vie.
D'ailleurs, comme trafiquant d'armes.
La référence est intéressante au passage. Et en fait, à ce moment-là, il s'est mis au service de gens beaucoup plus pauvres que lui, et il a trouvé qu'il y avait des choses dans la vie qui étaient beaucoup plus importantes que de faire un beau disque ou de bien le vendre ou faire des jolis concerts ou d'être connu ou de signer des autographes. C'était d'écouter les plus pauvres et aussi des gens malades. Il est allé dans des hôpitaux faire des piqûres à des vieillards malades ou des choses comme ça. Il a fait un peu l'infirmier. Donc il a payé de sa personne pour aider plus pauvres que nous, et ça mérite le respect, je trouve.
This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, don't get right if you're in a hurry. Lord, 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 this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Don't go nothing but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train. This train don't care no gamblers, this train. This train don't care no gamblers, this train. This train don't care no gamblers, no crapshooters and midnight ramblers.
Ça, c'était un hommage à Woody Guthrie. This Train is Bound for Glory, interprété ici par Graham Allwright avec Roger Mason. Un concert enregistré au Havre le 25 février 78. Mmh. C'est un hommage d'ailleurs auquel vous n'étiez pas allé étranger, Jacques Vassal. Hein. Vous aviez organisé un petit peu.
Je dois dire qu'en fait, j'ai suscité cet hommage à Woody Guthrie parce que depuis que j'ai découvert cet artiste, ça remonte à la fin des années 60, je trouvais que c'était quelqu'un de fondamental dans l'histoire de la chanson, pas seulement américaine, mais de la chanson mondiale. Et donc, en 1973, j'ai traduit l'autobiographie romancée de Woody Guthrie, qui s'appelait « Bound for Glory », comme cette chanson d'ailleurs, « En route pour la gloire » en français. Il y a eu un film plus tard de Hal Ashby qui a été tourné d'après ce livre. Et donc, en 78, j'ai eu l'occasion, la possibilité, avec un ami qui s'appelait Jean-François Millier, et je rends hommage à son souvenir, c'était un producteur de spectacle et un agent d'artiste très passionné, qui savait prendre des risques. On a monté deux spectacles à Paris, c'était au Stadium, une salle qui a disparu depuis, dans le 13e arrondissement, et puis deux spectacles sous chapiteau au Havre. Donc, sur 4 jours, on a été toute une troupe ensemble. Il y avait Daryl Adams, un vieil Américain ami de Woody Guthrie, qu'on entend le banjo qui est joué dans ce morceau, c'était lui qui jouait. Sammy Walker, un jeune Américain qu'on avait récemment découvert, et puis plusieurs autres. Et Graham Allwright était, disons, le lien dans cet hommage à Woody Guthrie. Et donc la chanson « This train is bound for glory », ce train est en route pour la gloire, Voilà. Et c'est un souvenir très cher à mon cœur.
Et c'est un des très beaux enregistrements de Graham Allwright, édité au Chant du Monde. Il faut vraiment lire, Jacques Vassal, votre livre, Graham Allwright par lui-même, parce qu'on comprend la complexité d'un personnage qui est un père souvent absent, qui part en voyage, qui n'est pas... Alors j'aime beaucoup le mot de Catherine Dasté qui dit, lui, il n'est pas égoïste, il est auto-centré, hein, ce qui donne quand même une nuance. Et puis on découvre un personnage qui est capable d'aller dans un hôpital psychiatrique, parce qu'il a conscience qu'il en a besoin, mais qui va finir par devenir aide-soignant là-bas. Il va donner des spectacles, il va donner des coups de main. C'est vraiment un personnage extrêmement intéressant et passionnant. Graham Allwright. Oui. Je vous propose, pour terminer l'émission, qu'on écoute un spirituel, mais pas par Graham Allwright. Mary, don't you weep. Allez, devinette.
Oui.
No, Mary, don't you weep.
Et on se quitte avec Prince et ce spirituel Mary Don't You Weep. Ça, c'est en attendant la sortie de Piano on a Microphone 1983, captation d'un concert de Prince. Donc, ça paraîtra le 21 septembre prochain chez Warner. Merci beaucoup, Jacques Vassal. Je rappelle que votre ouvrage, Graham Allwright par lui-même, est édité au Cherche Midi. Pour aller plus loin, on peut aussi réécouter sur France Culture la série d'entretiens à voix nue par Victor Massé de l'Épinay, d'ailleurs que vous citez.
Que je cite plusieurs fois. Excellente série.
Dans le livre.
Oui.
Brisa Rocher, merci à vous. Merci d'être venu jouer ici dans le studio 108 de la Maison de la Radio. Votre album Father est édité par Vagram et Black H. Vous serez en concert le 20 juin à la Boule Noire et le 3 octobre à Paris au Café de la Danse. Toutes les informations à la programmation musicale, on peut la retrouver à la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous recevrez tout.
Alors on y va, c'est bon.
Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, réalisation Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Inès De Bruyne et Anthony Thomasson. Merci à Annie Lozana, Delina et Antoine Villose de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent, restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.